Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour cette édition spéciale du bulletin d'ONU Info consacré aux défenseurs de l'environnement. Dans un entretien accordé récemment à Alexandre Carrette d'ONU Info Genève, Michel Forst, rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement, estime que la répression visant les militants du climat constitue une menace majeure pour la démocratie. On l'écoute.
J'ai été élu en 2022 à ce nouveau mandat. J'ai voulu, comme c'est mon habitude, d'abord commencer à aller sur le terrain pour écouter les militants, les défenseurs, et voir comment ils comprenaient ce nouveau mandat, l'expliquer, le faire comprendre, surtout recueillir des témoignages de défenseurs de l'environnement, de militants du climat, pour voir comment le mandat pourrait être utile et éventuellement orienté pour être plus effectif. Et j'ai fait donc une série de plus d'une vingtaine de visites dans des pays de l'Union européenne, mais aussi en dehors, la Suisse, la Norvège par exemple. Et j'ai été frappé de voir qu'à chaque fois, au-delà des rencontres officielles que j'ai avec les États, dans mes rencontres avec les militants environnementaux, la question des militants du climat était la question la plus poignante, la plus pressante, celle qui paraissait la plus urgente pour les militants qui venaient vers moi en me racontant des témoignages de la manière dont ils sont perçus, réprimés à différents niveaux dans la société du pays dans lequel ils évoluent. Et ce qui est frappant, c'est qu'en fait, on retrouve des thématiques communes dans presque tous les 20 pays. Le seul pays qui fait exception, c'est la Norvège, dans lequel on a également les mêmes mouvements militants, les mêmes acteurs, ils utilisent des méthodes d'obéissance civile, mais la Norvège fait un peu l'exception dans le reste du paysage européen. D'où l'idée, en fait, de dresser un panorama de ce qui se passe en Europe pour attirer l'attention des États sur le fait qu'il s'agit, au fond, d'une liberté fondamentale, qui est le droit de manifester non-violemment, et de voir de quelle manière, en fait, cet État réprime à l'heure actuelle le droit à la liberté de manifestation. Donc le rapport, c'est d'abord une prise de position du mandat pour expliquer pourquoi j'en suis arrivé là. Et c'est la première étape vers un deuxième rapport qui sortira bientôt, qui lui est un outil plutôt à destination des États, qui expliquera comment les États devraient se comporter du point de vue du droit international des droits de l'homme sur la question de la désobéissance civile.
Alors justement, vous le dites, hein, dans votre rapport, il y a des similitudes entre la façon dont réagissent ces États par rapport au mouvement des défenseurs des droits de l'environnement. Comment est-ce que vous expliquez cette répression assez violente de la part des États par rapport à ces mouvements?
Alors je crois d'abord qu'elle a surpris beaucoup de gouvernements, en fait. Elle est relativement récente, même si la désobéissance civile, c'est un vieux concept. On pourrait y revenir après pour expliquer ce que c'est, parce que beaucoup de gens comprennent mal la définition qu'on a aux Nations Unies de la désobéissance civile. Mais en gros, on peut dater ça, disons, des accords de Paris, où on voit qu'après les accords de Paris, voyant que les États ne mettaient pas assez rapidement en œuvre les décisions prises pour réduire l'impact du changement climatique sur la vie quotidienne, des jeunes militants se disent, au fond, c'est notre avenir qui est en jeu, notre futur qui est en jeu, et vous, qui avez en fait les responsabilités en charge, vous ne faites pas assez, et donc on ne croit plus aux militants politiques traditionnels, et on va utiliser de nouvelles formes d'action pour montrer à quel point il y a une urgence climatique, et on vous demande à vous, les États, de répondre mieux. Et effectivement, devant cette émergence de nouveaux mouvements qui utilisent des formes non conventionnelles, non habituelles de désobéissance civile, eh bien, les États ont un peu été désarmés et ont pris, de mon point de vue, la mauvaise réponse, c'est-à-dire de réprimer violemment, au lieu, dans un premier temps, d'essayer de comprendre et de répondre mieux aux demandes des militants du climat. Parce qu'en fait, les militants du climat nous disent on n'a pas confiance dans les partis politiques et donc on veut alerter l'opinion publique. On utilise des choses qui en fait sont un peu nouvelles, qui n'existaient pas par le passé. On bloque un accès à un aéroport, on bloque un accès sur une autoroute, on fait une marche lente d'une demi-heure pour bloquer un accès à une station-service. Ou bien on colle notre main sur le sol pour protester, on s'enchaîne à une grille devant un bâtiment symbolique, on jette de la soupe ou de la peinture sur des monuments pour protester. Tout ça avec une visée qui est de dire, en fait, attention, on vous alerte sur le fait que des choses graves se produisent. Et la répression des États, effectivement, elle est à l'heure actuelle pas du tout à la hauteur de l'événement. Et le rapport est là pour dresser en fait un constat qui part d'abord des réactions des politiques. Et on est frappé de voir que dans le monde entier, en Europe singulièrement, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Grande-Bretagne, on a des premiers ministres, des ministres de l'Environnement, des ministres de l'Intérieur qui utilisent des mots comme éco-taliban, éco-terroriste, Khmer vert, etc. Sans penser au fond que cette terminologie non seulement disqualifie les défenseurs eux-mêmes, mais disqualifie la cause pour laquelle ils s'engagent.
Voilà, fin de ce bulletin d'ONU Info. Vous pouvez nous retrouver sur l'Internet et sur nos comptes médias sociaux X et Facebook. Merci de votre fidélité. À bientôt.